nous voulons te remercier parce que on va ouvrir ta parole. On va te demander de nous donner des yeux pour voir, que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre, Seigneur, et vraiment que tu puisses parler à notre cœur ce matin. Je te demande ça en ton nom précieux. Amen. Bonjour à tous. Ça va? Vous allez bien? Je suis content d'être là. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prépare une prédication, on pense beaucoup à vous pendant la semaine. Parce que quand on se plonge dans un texte, on apprend ce texte, on tire des idées, on écrit, on pense. Et à un moment donné, il faut qu'on mette tout ça sur papier pour vous le retransmettre. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup pensé à vous cette semaine. Et je me suis dit qu'on va commencer par une petite devinette. Vous êtes d'accord avec moi? On va parler d'un texte qui se trouve dans la Bible. Jusque-là, tout va bien. On est d'accord. Dans le Nouveau Testament. Vous n'avez toujours pas trouvé? Bon. C'est pas un évangile. D'accord? Il y a 335 mots. Il y a quel chapitre? Qui c'est qui a dit Philémon? J'ai pas fini. Mais c'est ça, c'est Philémon. Vous connaissez l'histoire de Philémon? Oui? C'est bien. Merci Joe. Philémon, une particularité quand même des épîtres de Paul. Parce que les épîtres habituellement s'adressent à des églises, à des personnes, en Tite, Timothée. Mais là, particulièrement, dans cet épître, on va dire que c'est presque une lettre personnelle que Paul adresse à Philémon. Elle est, somme toute, classique. On va voir ensemble le contexte. Mais elle suit vraiment ce que Paul écrit, l'introduction, une reconnaissance, le corps du texte et la salutation. Dans le style, Paul ne s'est pas égaré. Par contre, il a changé. Et j'aime bien cette lettre parce que, quelque part, on s'aperçoit une part d'humanité, quelque part, que Paul développe ici, une part de fraternité, d'amour qu'il a pour Philémon, et on va creuser ensemble. Tout d'abord, Philémon fait partie des écrits qu'on appelle les écrits des lettres de la captivité, puisque Paul, ici, dès le premier verset, nous dit qu'il est prisonnier. Donc il est en prison, à Rome, vraisemblablement. Et fort heureusement pour lui, il n'est pas seul cette fois-ci, puisqu'il a Timothée avec lui. Donc il écrit à Philémon avec Timothée. On verra plus loin que c'est lui qui écrit, personnellement. On sait que Philémon, dès les trois premiers versets, Philémon est un chrétien, a priori de Colosse. Cette lettre est adressée aussi à sa femme, Appia, à Archip. Certains disent que c'est même son fils, on n'est pas sûr à 100%, et à l'église de sa maison. Parce qu'en réalité, Philémon, quelqu'un d'assez aisé, quelqu'un qui a assez d'argent pour avoir une grosse maison et pour pouvoir accueillir l'église dans sa propre maison. Jusque-là, vous me suivez? On est dans le contexte. Hein. Paul écrit à Philémon, et il écrit à propos d'Onésime. Et qui c'est celui-là, Onésime? C'est pas la lettre à Onésime, c'est la lettre à Philémon. Il a écrit au sujet d'Onésime parce qu'il lui dit, voilà, Onésime, c'est un esclave qui t'appartient, il s'est passé des choses, et je vais te le renvoyer. Cet esclave, Onésime, a même volé son maître. Vous voyez ça dans le verset 18. Comme ça, je vous dépeins vraiment toute l'histoire pour qu'on puisse comprendre ensemble. Et la problématique de cette lettre, là où c'est particulier, c'est que Paul va faire une demande un petit peu particulière à Philémon, dans le contexte historique, parce qu'il lui dit, voilà, tu as un esclave, Onésime, que j'ai rencontré, avec qui on a partagé, et il est devenu chrétien. Et il me sert beaucoup. C'est un ami fidèle, un frère fidèle, il me sert beaucoup. Mais Paul sait, en tant que citoyen romain, qu'il ne peut pas garder un esclave qui ne lui appartient pas. Il est déjà en prison, mais si ça s'apprend, il va être encore plus embêté. parce que c'est la loi romaine, c'est comme ça. Et lui, il est citoyen romain, donc il connaît bien ça. Donc il renvoie Onésime à Philémon, et il lui dit, voilà, je te renvoie, Onésime, mais si éventuellement tu pouvais me le renvoyer, ce serait pas mal. Et en plus, si tu pouvais le renvoyer libre, ce serait encore mieux. Il le dit pas tout à fait comme ça, hein, je paraphrase un petit peu. Et là où c'est un petit peu subtil, c'est qu'on voit une délicatesse chez Paul qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Parce que là, Paul, il aurait pu très bien imposer et dire, comme il a déjà dit, voilà, j'aimerais ça pour le service dans le Seigneur. Voilà, tu, en gros, Philémon, qui est un de ses fils spirituels, aurait très bien pu dire, bon, bah ok, c'est un peu mon père spirituel qui me demande un service. Même si Onésime, c'est mon esclave et que je suis de plein droit sur Onésime, eh ben, je le laisse à Paul. Mais Paul ne sait pas ce qu'il fait. Il n'use pas de son autorité. Il pose une question à Philémon. Il lui demande quelque chose. Il formule une requête. Il lui demande même, un peu plus loin, on verra, verset 20, il lui demande une faveur. Il lui dit, voilà, c'est un besoin pour moi, c'est un frère en Christ, considère-le et renvoie-le. On a planté le décor. D'accord ? Tout va bien ? Vous avez compris l'histoire ? C'est pas très compliqué. C'est un peu particulier, mais c'est pas très compliqué. Et on va voir comment Paul va s'y prendre. Après une salutation amicale, on voit qu'il connaît bien Philémon, qu'il connaît bien sa famille, qu'il connaît bien l'Église, même s'il n'y est jamais allé. On apprend ça. Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour de Philémon. Et on va voir comment Paul intercède pour Philémon. Verset 4. « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes, et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » Impressionnant. Est-ce que vous avez déjà vu un CV dicté par quelqu'un d'autre de vous-même dans cette ampleur-là ? Impressionnant. Paul met en exergue l'exemplarité du chrétien qui est Philémon, de son caractère de chrétien. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Au travers de son amour et de la confiance, tu as compris l'amour et la confiance que Jésus a eu pour toi, et non seulement tu l'as compris, mais en plus tu la mets en pratique. Parce que, notez bien ce qu'il dit, j'entends parler. Là on parle du témoignage de Philémon qui est tellement fort que Paul, qui n'est pas à Colosse, entend parler du fait qu'il aime ses frères. On comprend que Philémon a compris et accepté et met en pratique le fait que l'amour fraternel qu'il a développé pour ses frères et sœurs en Christ est aussi fort pour lui que l'amour que Christ lui a montré pour lui-même. Ça revient à un commandement qu'on connaît beaucoup, qu'on apprécie, j'espère beaucoup. Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » On va dire que là, Paul, avant de demander, de proposer sa requête à Philémon, il dresse le tableau de sa personne. Il dit, voilà, je sais qui tu es, mais spirituellement, je sais qui tu es. Je sais que tu as confiance en Christ, je sais que tu as compris le message, je sais que tu l'appliques déjà, que tu aimes tes frères et sœurs. Et Paul, qui lui demande quand même d'aller plus loin, vous remarquez, il lui dit, je sais, mais je t'encourage à aller plus loin. Verset 6, il lui dit quoi ? Je demande à Dieu que la solidarité qui nous lie quelque part, cette foi qu'on a en commune, se traduise en acte. J'ai déjà entendu parler de toi, mais je te demande encore plus. Et quelque part, on ne peut pas ignorer que Paul a une arrière-pensée, puisqu'il va lui demander de récupérer Onésime. D'accord ? Donc c'est un petit peu construit. Mais on va voir que Paul va vraiment être très précis et délicat dans ce qu'il va demander. Il termine, dans ce premier passage, en exprimant sa grande joie. Et il lui dit que tu as beaucoup d'empathie finalement pour les autres chrétiens. Tu as réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » Dans d'autres traductions, vous pouvez avoir, dans le verset 7, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Philémon, dans les mains du Seigneur, on voit que c'est un instrument de paix, un instrument d'amour. Et vous le savez bien que c'est ce que nous encourage le Seigneur tout au long de la parole. Il nous dit que tant que ça le tienne à nous, il faut qu'on soit en paix avec tout le monde. Et Philémon, c'est un instrument de paix. Il travaille au cœur, il prend soin des gens. Ça va être important pour la suite. Parce que Paul le sait très bien, ça. Il sait que Philémon, c'est pas un Pierre, par exemple. Il sait que Philémon, il a un caractère doux, il aime les âmes. On va s'arrêter sur le texte. On vient de voir une prière d'intercession. Et je me pose souvent la question de savoir où est-ce que j'en suis moi avec la prière d'intercession. Vous savez, intercéder pour quelqu'un, c'est prier pour l'autre. On l'a vu pendant une bonne partie de l'année dernière avec le livre de Don Carson sur la prière renouvelée, comment Paul s'adresse et prie. Il prie pour les autres. Il prie pour que la foi des autres grandisse. Et je me pose souvent la question, moi, combien de fois dans la semaine, dans la journée, je prie pour chacun d'entre vous? Combien de fois je prie, pas pour que vous alliez bien ou passiez une bonne semaine, mais combien de fois je prie à genoux pour mes frères et sœurs pour qu'ils grandissent devant le Seigneur, pour que leur foi grandisse en lisant la parole, en vivant quelque chose avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez aussi la façon que Paul regarde Philémon? Est-ce que dans notre assemblée, on a l'habitude de voir un frère, une sœur de la même façon? Paul connaît Philémon, on voit qu'il le connaît bien, il connaît sa femme, il connaît son église, il connaît sa situation financière, il le connaît. Mais regardez la description. Il lui dit, je cesse d'exprimer ma reconnaissance, je fais mention de toi dans mes prières parce que j'entends parler de toi, parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu as compris le message de l'évangile, parce que tu annonces le message de l'évangile, parce que tu aimes les autres et tu fais preuve d'amour envers les autres. Et je me pose encore la question à moi-même, combien de fois, cette semaine, j'ai pensé à vous comme ça? Je me suis dit, waouh, mon frère, mais quel homme de Dieu! Parce que je l'entends parler de Christ, parce que je le vois vivre sa vie avec Dieu. Combien de fois j'ai parlé de vous comme ça cette semaine? En quelque sorte, ma réflexion dans cette introduction, c'est de dire, mais est-ce que je vis vraiment l'amour fraternel dans le sens où Paul nous le décrit là? Paul continue. Parce qu'il n'a pas écrit cette lettre à une église, à plusieurs personnes. Il veut demander quelque chose à Philémon. Versets 8 à 11. Paul lance un appel à Philémon en faveur d'Onésime. Et ce qui est frappant, c'est que c'est en quelque sorte un chrétien, lambda, qui s'adresse à un autre chrétien, lambda, et qui lui fait une demande. Il se présente ici comme un vieillard emprisonné. Verset 9. Ce qui sous-entend quelque part, on revient dans le contexte, que c'est peut-être même la dernière année qu'il a écrite. Il a écrit cet épître à la dernière année de sa vie. Il se met en condition, et il met en condition celui qui reçoit la lettre en disant, voilà, moi je suis un vieillard, emprisonné, je suis dans les chaînes, quelque part j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à te prouver, et quelque part tu me dois le respect. C'est comme ça qu'on pourrait le lire. Mais quand on continue la lecture, on s'aperçoit que Paul lui dit ça, lui dit, voilà, tu pourrais me devoir le respect et faire ce que je te demande, mais en quelque sorte, tu choisis. C'est toi qui décides. Je ne veux pas t'imposer ma volonté. Et je te prie au nom de l'amour et de la fraternité qui nous unit. Verset 9, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. En effet, l'amitié et l'estime qui existent entre les deux hommes font que Paul préfère régler cette affaire de façon cordiale, plutôt que de façon légale, ce qui obligerait Paul à user de son autorité d'apôtre. Versets 12 à 16, Paul renvoie Onésime à Philémon et lui dit clairement ce qu'il attend de lui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Paul sait qu'il n'est pas en règle quelque part déjà avec la loi romaine, on n'en sait pas plus, mais il sait aussi que vis-à-vis de son frère, ce n'est pas correct. Puisqu'il connaît la situation, il sait qu'Onésime est un esclave qui appartient à Philémon, et on développera un peu plus tard ce que c'est que l'esclavage à ce temps-là. Il le sait, et il ne veut pas qu'il y ait un quiproquo, qu'il y ait une mésentente, il ne veut pas que Philémon pense que Paul garde quelque chose pour lui alors que ça appartient à Philémon. Et quelque part, c'est impressionnant. C'est impressionnant que Paul veuille garantir, veuille être le garant de l'amitié et plus même de la fraternité en Christ qui existe entre lui et Philémon. Il veut vraiment être le garant qu'il n'y ait pas de problème derrière. Mais regardez aussi comment il présente Onésime à Philémon, comme un frère très cher, verset 16. « Il est tellement pour moi, combien plus le serait-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ?» Il insiste beaucoup là-dessus. « Je te renvoie Onésime, tu le sais pourquoi, mais n'oublie pas, il s'est passé quelque chose avec moi, dans la prière, devant le Seigneur, il s'est passé quelque chose. Onésime a donné sa vie à Christ. Ne le reçois plus comme simplement ton esclave, mais comme un frère. » Et Paul insiste encore un petit peu. Tu fais ce que tu veux, Philémon. Mais quand même, il insiste. Il renouvelle sa demande et il lui dit quelque chose d'impressionnant. Vous avez vu, quelque part, Paul, il est en train de préparer comme il faut Philémon. Il lui a fait pas mal d'éloges, etc. Dans l'honnêteté, hein, je pense que Paul, s'il avait envie de lui dire les choses directement, il lui aurait dit. Mais là, il le prépare. Et il va même plus loin, puisqu'il lui dit quoi en verset 17 ? Alors, vous avez peut-être une version différente, mais la mienne, c'est « Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. » Parce que toi et moi, on est frères en Christ, la personne que je te renvoie, quelle que soit son identité sociale, quel que soit ce que tu penses d'elle, accueille-le comme si c'était moi. Et là, il pose un dilemme à Philémon. Vous imaginez bien, Philémon, c'est le fils spirituel de Paul. Alors quand Paul vient chez Philémon, d'ailleurs à la fin de la lettre, il lui dit « Prépare-moi un lit, peut-être que je vais venir. » Donc ils avaient l'habitude de se croiser, ils avaient l'habitude de se voir. Vous imaginez, je vais venir chez toi, mais en fait, ce n'est pas moi qui viens. Je t'envoie quelqu'un. Mais cette personne que je t'envoie, je sais que quelque part, tu as un grief avec elle. Je sais que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Vous allez régler ce problème, mais n'oublie pas, c'est un frère. Alors j'imaginais, là, je vous fais une petite blagounette, j'imaginais être introduit par un ancien, la première fois qu'on prêche. Vous imaginez, Daniel, il se lève, il vient à côté de moi, première fois que je prêche, et il me dit, bah voilà les gars, il s'adresse à vous, il dit, bah, enfin, il dit pas voilà les gars, Daniel. Il dit, voilà, Seb, vous pouvez y aller, c'est tranquille, c'est du lourd. Bon, après on est mal, parce qu'après il faut faire quelque chose de tranquille et de bien. Mais vous imaginez, la présentation, Paul, il dit à Philémon, écoute mon ami, je te renvoie quelqu'un, mais le gars que je te renvoie, pff, magnifique, est tellement magnifique que considère que c'est comme moi. Un ami pour Paul, là je parle de Philémon, c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans le besoin. On n'a pas besoin d'avoir doute sur ses dispositions à notre égard. Il sait que notre désir sera toujours de faire le mieux pour notre intérêt. Philémon, il a confiance, Paul a confiance en Philémon. C'est son ami. Et il sait qu'en lui faisant cette demande, il ne va pas être surpris du résultat, parce qu'il le connaît bien. Si Philémon estime Paul comme son ami, Paul n'a pas de crainte à avoir. Il sait que Philémon lui fera confiance dans ce qu'il a dit et de la façon avec laquelle il défend la cause d'Onésime dans cette affaire. Paul va même plus loin et il déclare qu'il peut payer, puisque je vous rappelle que verset 18, on voit qu'il y a un problème d'argent, il y a un problème de vol. Il dit « Je peux payer s'il le faut, je prends sa dette, considère que c'est moi qui vais prendre sa dette. » je te rembourserai ses dettes. Versets 21-22, on voit que Paul exprime sa confiance envers Philémon. Il sait qu'il va répondre favorablement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il sait qu'il va lui répondre favorablement. Par la confiance en l'obéissance déjà maintes fois prouvée de Philémon, il est convaincu qu'il ira même au-delà de son attente. On parle de la libération d'Onésime. Philémon n'est pas quelqu'un qu'on doit toujours presser d'obéir. Paul sait qu'il lui demande quelque chose et il ne le fera pas dans l'attitude de quelqu'un qui doit obéir par obligation ou par devoir, mais celle qui cherche toujours à faire le mieux ce qu'on lui demande. Sur le texte biblique, on va s'arrêter là, mais on va ouvrir une page qui est intéressante. Parce que quelque part, Paul traite d'un sujet brûlant ici. On n'en a pas conscience parce qu'on ne l'a jamais vécu. Enfin, je ne pense pas, même les plus anciens d'entre nous. Mais quel est le sujet ici? De quoi on parle? C'est quoi l'arrière-plan de l'épître? L'esclavage. Et ça nous pose des questions. Alors, on a fait quelques recherches. J'ai trouvé que l'esclavage était une institution reconnue et pratiquée, ça c'est pas nouveau, dans l'Empire romain, et qu'après certaines estimations, l'Empire romain comptait, au 1er siècle, quelques 60 millions d'esclaves. Ça ne vous rappelle pas un pays, ça? Le tiers de la population de l'Empire romain. On ne reconnaissait à ces malheureux aucun droit civil, ni matrimonial. Ils n'avaient pas de nom, leur maître pouvait, à leur discrétion, bien évidemment, les vendre, les séparer, les donner, les torturer, les tuer. Il n'existait pas des choses. Leurs conditions étaient pires que du bétail. Et donc, on a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez compris où je veux en venir? Philémon, il est chrétien. D'après ce que Paul nous dit, il a compris le message de l'Évangile. Il a compris l'amour qu'il doit donner pour l'autre. Même si on sait, on imagine que Philémon ne serait jamais allé à de telles extrémités, son esclave s'enfuit. Et en plus, il s'enfuit dans une position qui est délicate parce qu'il a volé Philémon. Donc Philémon aurait le droit d'aller le chercher, de le faire traquer, de le faire jeter en prison. Vous êtes d'accord avec moi que l'esclavage, même présenté ici, ça rime pas bien avec ce qu'on sait que de l'Évangile. Aimer son prochain, comme on a lu tout à l'heure dans Jean 13, aimer son prochain... Quand c'est un esclave, quelle est la condition de l'homme? C'est compliqué. Donc on dit de Philémon qu'il est merveilleux chrétien, ce qu'a dit Paul, mais il est propriétaire d'esclaves. Si Philémon est un grand chrétien, comment peut-il posséder des esclaves? De quel droit un homme a-t-il le droit de posséder un autre homme? Et comment Onésime, en revenant auprès de son maître, pouvait user de sa liberté en Christ, étant devenu chrétien? Et c'est bien là le sujet, la liberté. Ce qui est un paradoxe, que Paul utilise cette lettre pour parler de liberté, alors que lui-même est emprisonné. Mais vous savez très bien que la liberté dont Paul parle, c'est de la liberté en Christ, c'est une liberté spirituelle. Elle signifie la libération du péché et de sa conséquence, la mort. Vous voyez ça dans Galates 2.4 ou dans Galates 5, versets 1 et 13. En devenant chrétien, Onésime, lui aussi, a été libéré du péché, de sa condamnation. Il devient tout comme son maître, Philémon, tout comme Paul, un co-héritier de Christ. Alors la question que je me suis posée, un esclave chrétien jouit-il de la même liberté et même droit que son maître au sein d'une communauté chrétienne? Rappelez-vous, Philémon a une grande maison, l'église se rassemble chez lui. Si c'est chez lui, ses esclaves sont aussi là. Comment il fait? Et comment Onésime, qui maintenant est chrétien, va rentrer chez son maître pour servir son maître, parce qu'il est esclave. C'est comme ça. Comment il va faire en tant que chrétien? Vous imaginez la problématique? Je ne peux pas répondre à cette question. Déjà, pour une seule raison, c'est que on n'a pas suffisamment d'éléments, et puis nous, on n'a pas vécu. On ne sait pas dans quelles conditions vivait l'esclavage, d'après ce qu'on a vu plus tôt, oui, mais on ne sait pas exactement comment ça se passait. Et puis surtout, le problème que j'ai, c'est que si quand on devient chrétien à cette époque-là et qu'on est esclave, on est libre parce qu'on est frère en Christ, vous imaginez bien que si Onésime rentre à la maison de Philémon et dit « Bah, je suis chrétien, donc tu me considères comme un frère en Christ, donc je suis libre », les autres esclaves vont faire quoi? « Ah bah, je suis chrétien aussi. » Comme ça, on est libre, c'est plus facile. C'est un raccourci qui est énorme. Donc ça enlèverait quoi? Ça enlèverait l'authenticité de l'engagement envers Christ. Donc je pense pas que, de toute façon, Paul ne s'attarde pas trop là-dessus, mais il a quand même une position sur le passé d'Onésime. Qu'est-ce qu'il nous dit? On voit bien que Paul, il est soucieux de ce que va dire Philémon ou du témoignage que Onésime va avoir chez Philémon. Pourquoi? Parce que, mettez-vous dans la peau de Paul. Est-ce que Paul n'a pas vécu cette situation-là? Quand il s'est converti, il était qui, lui? Il tuait des chrétiens. Il s'est converti, il est devenu chrétien, et il se présente devant des chrétiens. Il y a eu un problème. Il y a eu, à un moment donné, il a dû expliquer. Il a dû dire les choses claires. Et je pense que c'est ce que Paul veut faire pour Onésime. Il le renvoie vers Philémon en lui disant, attends, maintenant c'est un frère. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné sur l'amour fraternel en Christ. Rappelle-toi l'enseignement que je t'ai transmis de Christ. Et maintenant, n'oublie pas, c'est un frère en Christ. Un frère qui plus est, qui m'est cher. Il l'appelle même son enfant. Verset 10, je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, dont je suis devenu le père spirituel en prison. Vous imaginez ? Il lui envoie ça, il lui dit maintenant, tu dois choisir. Je te demande quelque chose. Paul pense que Onésime devait être libre de commencer une vie nouvelle, réellement, sans devoir traîner derrière lui un lourd boulet d'une situation qu'il n'avait pas réglée. Parce qu'au-delà d'être esclave, c'était un voleur. Et je pense que la première chose qu'il a dû faire en arrivant chez son maître, c'est de lui demander pardon pour le vol. Vous êtes d'accord avec moi ? On imagine très bien la situation. Alors je me suis posé la question. Je sors du texte, je reviens dimanche matin, 21 avril. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment nous, on accepte quelqu'un ? Comment on réagit quand on voit dans une autre communauté, dans notre église, et qu'on sait que dans le passé, il y a eu des choses lourdes, peut-être pas réglées ? Comment on agit ? Est-ce qu'on juge ? Est-ce qu'on condamne ? Ou est-ce qu'on aime ? J'arrive à la fin, enfin, pas à la conclusion, mes frères qui ont eu l'étude de la prédication ce matin, d'accord, je sais, il ne faut pas dire conclusion trop vite, j'arrive à la fin, je ne suis pas à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'amour et le respect réciproque caractérisent le fonctionnement du corps de Christ. Vous avez bien vu au départ, qu'est-ce que Paul dit sur Philémon ? Ton amour et ta foi pour les chrétiens, c'est le même que ton amour et ta foi que tu as pour Christ. On voit bien que le message central de ce texte, c'est la mise en pratique de l'amour fraternel. Christ nous unit tous par son esprit. Nous sommes tous son corps, l'Église. Jésus, au travers de la lettre de Philémon, nous enseigne à aller au-delà de nos préjugés, du mépris, des jugements que nous imposons des fois à nos frères et nos sœurs. Regardons notre famille spirituelle, tous autant que nous sommes ici ce matin, regardons notre famille spirituelle remplie d'amour et de compassion, comme Christ nous demande de regarder nos frères et sœurs. Et là, c'est plus une devinette, mais j'aurais aimé, et c'est une demande, une faveur que je vous demande, qu'on puisse prendre pendant 5-10 secondes le temps de se regarder. Regardez vos frères et sœurs. Regardez autour de vous. On est tous pécheurs. On a tous besoin de la croix. On est bien d'accord. Mais regardez vos frères, vos sœurs, avec l'amour de Christ. Peut-être que vous allez voir des hommes et des femmes qui ont besoin de la croix. Peut-être pas encore accepter la croix. Peut-être des personnes fragiles, des personnes têtues, des personnes qui vous ont fait du mal, des personnes où vous êtes reconnaissantes. Mais vous savez quoi, au final, les gens qu'on voit autour de nous, c'est nous. On est tous au même pied d'égalité devant Dieu. Et c'est ce qu'un peu est en train d'expliquer Paul à Philémon. Une fois sauvé, une fois que Christ est rentré dans la vie de Onésime, comment Philémon pourrait continuer à le garder comme esclave ? C'est pas possible. Mais il ne lui impose pas. Il le laisse choisir. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Une autre chose que j'ai remarqué, chacun des trois personnages de cette histoire a renoncé à quelque chose pour que l'amour fraternel triomphe. Pour Paul, il a décidé de renvoyer Onésime vers Philémon et ça lui coûte. Il le dit, c'est un frère qui lui est utile. Subtil jus de mots, parce que Onésime ça veut dire utile. Il lui dit, il est utile pour moi, Onésime. J'ai besoin de lui. Quelque part, vous savez bien que Paul ne parle pas de lui. Quand il dit j'ai besoin de lui, c'est pourquoi ? C'est pour qui ? C'est pour Christ. C'est pour l'avancée du royaume. C'est pour la parole de Jésus-Christ. Il le rappelle même en disant « Si je suis prisonnier, c'est à cause de Jésus-Christ, c'est à cause de la parole de Christ. » Donc si Onésime lui est utile, on se doute bien que c'est pour l'avancement du royaume. Mais il le renvoie quand même. Parce qu'il aime Philémon, parce qu'il sait qu'il doit respecter Philémon dans l'amour de Christ. Et il sait aussi que Christ est souverain. et qui va diriger cette situation. Et quelque part, il place sa confiance beaucoup plus en Christ, parce qu'il sait qu'il va travailler aussi le cœur de Philémon, plus que dans sa propre volonté, en se disant, de toute façon, je suis apôtre, j'aurais pu très bien lui dire, écoute, je prends Onésime, je le garde, tu sais pourquoi, c'est une raison qui est valable, c'est pour servir le Seigneur, donc je garde. Et ce n'est pas ce que fait Paul. Paul a confiance, laisse le Saint-Esprit le travailler, et a confiance en Christ. Pour Philémon, c'est plus évident pour lui, parce que lui, il est dans son plein droit, et il n'a rien demandé. Ils ont le droit d'avoir des esclaves. Il a des esclaves, il a de l'argent, il a des esclaves. Il est chrétien, certes, mais il a toujours des esclaves. Et vous savez quoi? Ce serait logique qu'il récupère Onésime. Il l'a même volé. Il est dans son plein droit. Mais qu'est-ce que nous dit Philémon? Comment on voit Philémon? Il sait qu'il doit considérer la demande de Paul. Ça va lui coûter, puisqu'il est dans son droit. Il ne va pas faire comme... Vous savez ce que ça veut dire être dans son droit. On le sait, nous, parce qu'on est comme ça souvent. C'est mon droit. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le caractère là qui est travaillé aussi chez Philémon? Même si c'est ton droit, regarde d'abord à la volonté de Dieu. Regarde d'abord à la volonté de Christ. Christ veut qu'en avant, il y ait l'amour fraternel. Et ensuite, tu verras si ça colle avec ta propre volonté. D'abord sa volonté et ensuite la nôtre. Et pour Onésime, lui, quand il est rentré chez son maître, je pense qu'il ne devait pas être bien, parce qu'il devait être dans ses petits souliers quand même. Hein. Parce que même s'il est frère en Christ, même s'il a accepté Christ, vous imaginez bien, devant la loi, il est toujours esclave. Et en plus, il a volé, il est condamnable. Et quelque part, il retourne, parce que Paul le renvoie, donc il obéit à Paul, et il arrive devant son maître. Et à mon avis, il devait trembler. Il doit affronter son maître. Il doit demander pardon. Est-ce que ça nous coûte de demander pardon? On le sait bien que ça nous coûte, puisqu'on a du mal, des fois, à le faire. On a du mal à demander pardon. Mais quelque part, Onésime fait preuve aussi d'une certaine confiance en Christ. Il est en paix. On ne nous dit pas qu'il allait à reculons. Il est allé. Il a été renvoyé vers Philémon. Et Philémon va l'accepter. Je voudrais vous laisser deux textes à méditer. Philippiens 2, versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. » C'est cela, vivre la liberté dans notre Église aujourd'hui. C'est accepter que l'amour fraternel passe devant notre propre intérêt. Ludovic Nobel a fait une thèse sur l'épître au Philémon de près de 300 pages. Philémon, c'est un chapitre. 300 pages. J'ai pas lu les 300 pages, je vous rassure. Mais sur la fin, il a dit quelque chose qui était, à mon sens, intéressant. En ce sens, l'épître à Philémon est un vibrant plaidoyer en faveur de la liberté. En effet, elle invite à la fraternité et à l'égalité au sein de la communauté chrétienne, cela quelle que soit la condition ou l'origine de chacun de ses membres. Ensuite, elle nous offre au travers de chacun des trois protagonistes un témoignage de liberté chrétienne où l'intérêt personnel est subordonné au bien commun de la communauté. Galates 5, 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. On est peut-être ce matin des Onésimes, on a peut-être besoin d'être libéré par Christ d'une faute qu'on a commise, on a peut-être besoin de se tourner tout simplement vers lui pour le connaître. Alors il faut le répondre à son appel. On est peut-être des Philémons, on est appelé peut-être ce matin à pardonner et à accueillir un frère, comme le fils prodigue qui revient. Le père, il a accueilli son fils. Il ne faut pas qu'on fasse de notre liberté un prétexte pour la chair, pour notre amour propre, pour notre orgueil. Mais comme le Christ nous a accueillis et pardonnés, faisons de même envers notre frère ou notre sœur. On est peut-être des Paul aussi ce matin, dans une situation où on est appelé à faire œuvre de réconciliation. Peut-être qu'on voit quelque chose, qu'on sait quelque chose, et que ça nous rend triste, et qu'on a envie que triomphe l'amour de Christ dans une situation. mettons-nous au service de nos frères et sœurs. Et je finirai parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette épître, c'est une épître d'évangélisation. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine histoire d'Arsène Jésus ? Alfred Kuhn, je finis avec cette citation. L'histoire d'Onésime peut fort bien servir de support à un message d'évangélisation. La dette d'Onésime est mise sur le compte de Paul. Le caractère de Paul est imputé à celui d'Onésime, et par là, il se trouve accepté par son maître. Je propose qu'on prenne une minute. Philémon, ça se lit très rapidement. Peut-être vous pouvez reparcourir le texte. Et je demanderai peut-être à Ricardo, si tu veux prier, s'il te plaît, après.
Merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, aide-nous à vraiment nous regarder les uns les autres, comme toi tu nous regardes, plein d'amour, Seigneur. Tu connais nos imperfections, tu connais notre cœur, et tu nous aimes, Seigneur. Et aide-nous à nous aimer, aide-nous à aimer vraiment ton Église, Seigneur. Et vraiment, tu nous aides à nous pardonner, Seigneur, aide-nous aussi à nous concilier, à nous concilier les uns avec les autres, Seigneur. Aide-nous vraiment à nous aimer, Seigneur, comme toi tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à aimer notre prochain comme toi tu l'aimes, Seigneur. Je te prie vraiment que tu nous aides, Seigneur, à vraiment mettre en pratique tout ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, que vraiment puisse s'accueillir les uns les autres avec amour. Dans le nom de Jésus.
Amen. Merci Sébastien pour...